Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Les plus petits comme les plus grands sont invités à participer à la marche des compteurs du 5 au 10 juillet. Depuis 2007, des compteurs et compteuses aguerris offrent des contes ancestraux et des récits engagés entre la vallée de la Gervanne et celle des baronnies. La célèbre conteuse Virginie Comanicki est aujourd'hui avec nous pour nous parler de ses journées et veillées magiques. Bonjour Virginie.
Bonjour Océane.
Alors dites-moi, qu'est-ce que la marche des compteurs? Depuis quand est-ce que ça existe?
C'est une aventure qui dédie des spectacles chaque soir au public des villages que la marche traverse. Cette histoire est née en 2007. Alors je ne calcule plus parce qu'il y a eu des années sans édition et avec le Covid, là il y a une année qui a sauté. La marche en Drôme devait avoir lieu l'année passée. En tout cas, c'est né en 2007 et c'est né dans la tête d'un conteur qui, avant d'être conteur, était berger et qui, au fil de son métier, s'est aperçu que les conteurs étaient amenés à traverser toute la France, voir se balader en francophonie, se croiser, ne pas se mélanger, ne pas se rencontrer et faire un peu chacun dans son coin son petit bonhomme de métier. Et il s'est dit, c'est dommage, l'essence du conte est d'abord de relier, de faire société.
De partager.
Et en tant que berger, il avait le goût et l'habitude d'arpenter ces montagnes. Et il s'est dit, pourquoi on ne ferait pas le pari de rassembler ensemble plusieurs conteurs de différents points de France et du monde. Juste se rassembler pour partager la parole et mettre la parole au cœur du projet. Et quoi de mieux pour se rencontrer que de marcher? Parce que lui, il avait constaté que quand on est en mouvement, on se situe plus du tout au même endroit dans les partages. Et voilà, il en a parlé à quelques copains. Et les séconteurs ont dit oui, d'entrée. Et au début, évidemment, cette marche n'avait pas l'allure qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle s'est affinée au fil du temps. Les premières marches étaient très, très routes. Mmh. Ils ne calculaient pas forcément bien leur temps de marche.
Ils n'avaient pas forcément d'organisation.
Non, c'était complètement pas organisé du tout. Ils dormaient dans des gymnases. Et puis, évidemment, au fil des années, ils n'ont eu de cesse de la peaufiner, de l'améliorer et puis de la rendre plus
agréable pour tout le monde.
Exactement.
Donc, qui marche toute la journée? C'est vous, compteur, et les habitants viennent assister aux veillées le soir?
En fait, donc, les compteurs qui vont venir là sur l'édition drômoise, pour un tiers font partie du CA organisateur. Le CA est composé de compteurs et de non-compteurs qui vont assurer la partie technique et logistique. Mais il y a donc dans le CA les compteurs qui sont des compteurs marcheurs et qui raconteront pendant les veillées. Un tiers est composé par des gens qui ont déjà fait la marche une année. Et puis un tiers par des gens, des compteurs qui font la marche pour la première fois.
D'accord.
Et tout ce petit groupe se retrouve tous les matins à un point que leurs accueillants va rallier par la voiture et se mettent tous en marche pour rallier un nouveau territoire. Et ensuite, une fois qu'ils ont marché pendant 10-12 kilomètres, ils arrivent dans le nouveau territoire pour l'éveiller du soir et sont répartis sur quatre villages qui les accueillent pour quatre veillées qui ont lieu en simultané. Donc le public ne sait pas qui il va entendre, car les compteurs ne sont pas annoncés et sont tous, bien que professionnels, anonymes et bénévoles au service du projet.
C'est ce qui aussi laisse un peu de mystère, on va dire.
Ça laisse du mystère et puis ça remet aussi le conte au centre de l'aventure. On n'est pas dans un des enjeux de promotion personnelle, de vente, de représentation et surtout pas de comparaison. On est un cœur à l'unisson qui allons créer pour une soirée quelque chose de fugace et magnifique. Une veillée ajustée pour le lieu, pour les gens qui sont là et par le collectif qui, pareil, est composé le jour même, puisque tous les jours, ce sont des groupes qui sont rebrassés. Donc, chaque conteur sait le midi avec qui il va raconter et où il va raconter.
Mais donc, finalement, cette équipe, elle a l'air plutôt diversifiée. Elle se constitue de combien de membres au total entre les bénévoles, les techniciens, les conteurs et les conteuses?
En équipe logistique, on est 6. Moi, étant conteuse locale, je ne raconte pas sur cette édition. Mon travail étant bien identifié là, sinon je travaillerais à servir ma petite promotion. Donc je me tais. Et en plus, comme je suis la seule dromoise de l'édition, je suis un peu repère pour un peu articuler toute l'aventure. Donc je vais conduire le véhicule qui transporte les bagages, puisque les conteurs ne portent pas leurs bagages. Et on est 6 en tout à transporter les bagages, les pique-niques. Il y a 2 techniciens lumière qui vont équiper les lieux. Et puis 2 sur les pique-niques et 2 sur le transport des bagages, la répartition des groupes et aussi la répartition des conteurs chez les habitants. Car les conteurs offrent la parole contre le gîte et le couvert, c'est-à-dire que pendant toute l'année, on a sollicité sur le territoire des habitants qui acceptaient pour une soirée de récupérer un compteur, de le nourrir, le loger, l'accueillir et le transporter et évidemment s'ouvrir à la rencontre.
De favoriser l'échange. Oui. Mais donc vous, ça vous met dans une position différente de celle que vous occupez d'habitude, puisque vous êtes habitué à raconter des histoires, justement. Et ces histoires, justement, parlons-en. Est-ce qu'il y a un thème au niveau de ce qui va être raconté, au niveau des récits, ou c'est vraiment propre à chaque conteur?
Alors, c'est une alchimie, hein. C'est-à-dire que ça va être, évidemment, chaque conteur, les conteurs qui viennent à l'édition sont des conteurs chevronnés qui ont un répertoire assez vaste, mais ils ont chacun leur identité et leur matière première et leur récit de prédilection. Donc, ils arrivent riches de ça. Et en même temps, pendant toute la semaine, ils vont être travaillés et par les lieux qu'ils vont traverser et par ce qu'ils vont vivre dans les journées et par les rencontres qu'ils vont faire. Et du coup, à chaque fois, la thématique, s'il y en a une, va émerger de ce lieu-là, à ce moment-là, avec ces 5-là qui seront rassemblés pour cette soirée-là. Donc non, on n'a pas du tout imposé de thème, sachant que la découverte d'un territoire en est un en soi, c'est-à-dire que pour la plupart des gens qui viennent de partout en France, du Québec, de Belgique, de Suisse, vibrer à l'unisson de la Drôme en la parcourant à pied pendant une semaine et en rencontrant ceux qui la font vivre, c'est déjà en soi une sacrée thématique. Quoi. Et d'ailleurs, c'est une chose dont peut-être on peut souffrir un peu des fois dans nos métiers, c'est-à-dire qu'on est en déplacement, on va ici, on va là, on déplace nos spectacles, mais finalement, on manque aussi de temps pour appréhender vraiment le territoire sur lequel on est accueilli et pour être quelque part un peu une fenêtre ou un témoin ou en tout cas un filtre à ce qui se dégage ou peut se raconter du territoire. En tout cas, on manque souvent de temps pour lester nos récits, les nourrir de ça, quoi.
Et puis apprendre aussi à connaître un peu plus votre public et aller à la rencontre peut-être de ces gens aussi. Donc il y a 4 veillées par soir, d'une manière générale, dans différents villages. Quel est finalement l'itinéraire que suit votre marche?
Les conteurs arrivent à Châteauneuf-de-Mazinque le premier soir au fief. Donc là, on est hébergés en collectif, puis vont se déployer dans le pays de Dieulfi le premier soir. Pour 5 veillées, c'est une soirée exceptionnelle. On a eu une demande qui s'est ajoutée au dernier moment et voilà, on s'est dit que ça pouvait être aussi chouette que les conteurs aient et une veillée où ils soient moins nombreux et où ils puissent s'installer un peu. Donc, pays de Dieulfi, et le lendemain, on marche jusqu'en Baronnie. Donc, on se déploie autour des Baronnies. On bascule le lendemain dans la vallée de l'Oule, la troisième soirée. Puis, vers le Diois, puis vallée de la Gervanne. Et enfin, on revient en Val-de-Drôme, pays de Soue, on va dire.
Donc, un sacré itinéraire. Comment vous préparez cette balade pédestre?
C'est Barjo. Comment on le prépare? Avec le CA, on se retrouve. On s'est retrouvé à peu près trois fois par an. Et à chaque fois, c'est un temps aussi pour nous, parce qu'on est tous évidemment bénévoles aussi à l'élaboration de cette marche. Donc, on a tenu à mettre le plaisir au centre de nos retrouvailles. Donc, on prend du temps aussi pour goûter le territoire et partager des choses. Et puis après, vadrouiller, rencontrer les gens, rencontrer les relais et prendre le temps de faire ensemble les marches qui vont relier le territoire. Moi, j'ai fait un gros boulot de défrichage au départ, à essayer d'imaginer comment on pouvait circuler dans ce territoire qui n'est pas si simple parce qu'il est... La question était de ne pas offrir des dénivelés trop importants, puisque les compteurs ne sont pas tous nécessairement marcheurs, pas tous jeunes non plus.
Il faut s'adapter à tout le monde.
Voilà, et donc c'était trouver à la fois comment aller sur se déployer sur un maximum de vallées et trouver des relais solides, et puis en même temps harmoniser le fait de ne pas trop être véhiculé, faire le maximum de trajets à pied.
Un peu dans le thème de la résilience, voilà. Thème qui est assez propagé en ce moment.
Ah ben la marche est précurseur là pour le coup, parce que c'est vraiment son moteur depuis le début de cette aventure, ouais. Et voilà, ça demande beaucoup de temps en fait, mais c'est un temps qui est assez délicieux à prendre. Hein. Je rechignais un peu au départ, hein, parce que je savais la charge de travail que ça représentait d'accueillir sur la Drôme. Et en fait, ça m'a offert l'occasion de revoir des gens que je n'avais pas l'occasion de voir, de m'inscrire dans une dynamique de projet sur ce territoire que je commence à bien connaître et que j'aime.
Et puis le faire partager et le propager un maximum. Mais pourquoi on dit que cette marche, c'est un acte de résistance ?
C'est un acte de résistance parce que ça va, et on s'en rend compte d'ailleurs quand on l'élabore, hein, ça va à contre-courant de tous les modes de pensée qu'on essaie de nous inviter à adopter. C'est-à-dire qu'on va, à contre-courant de toute autopromotion, de tout exercice de concurrence. On est dans le don, dans le partage.
Dans la simplicité.
Dans la simplicité, de mon point de vue, dans un retour à des choses qui nourrissent l'âme. Je crois qu'on en a besoin et de plus en plus. Et je trouve, moi, ça fait 4 ans que je suis rentrée au CA de la marche, enfin 4 éditions. Je trouve qu'au fil des années, ça demande de plus en plus de temps d'expliquer cette philosophie et cette éthique de la marche parce que ça ne va pas de soi. On est tellement de moins en moins dans le don et de plus en plus isolé.
On n'a plus
isolé.
Le temps aujourd'hui justement d'attribuer une partie de notre vie à des moments comme ceux-là en fait.
Voilà, c'est ça. Et puis du coup, ça implique aussi de se tenir loin des lieux de culture et des lieux subventionnés parce que c'est pareil, c'est pas... L'idée est vraiment de pouvoir la déployer pour le territoire et pour les habitants et de ne pas, évidemment pas... ni mettre en concurrence ou en difficulté les lieux qui eux font payer les soirées et sont subventionnés et puis vis-à-vis des compteurs aussi c'est important qu'ils puissent vivre cette aventure complètement dans le don et dans l'anonymat quoi.
Et les compteurs qui racontent donc des histoires et des récits en quoi vous diriez que les contes qu'ils vont partager sont engagés?
Offrir une parole comptée en soi est un engagement parce que pour moi, hein, c'est une des définitions que je donnerais. Être conteur, c'est filtrer le monde. Et filtrer, c'est forcément... c'est forcément engager son regard à sentir comment ces récits symboliques vont être nourriture. Et comment cette nourriture-là va pouvoir se partager et nous faire tous grandir. Donc de ce point de vue-là, bien sûr, c'est un engagement, c'est un engagement en douceur, mais qui a une réelle utilité. Et j'ajouterais même que dans cette période où le Covid nous a un peu mis à l'arrêt et un peu tout rebattu les cartes, il y a eu énormément de demandes d'établissements ou de personnes pour accueillir la parole comptée parce que je crois qu'on...
Il y a eu des réels besoins.
Il y a eu des réels besoins et puis c'est un outil qui forge l'humanité depuis la nuit des temps, en fait. Raconter, c'est rêver le monde et c'est rêver le monde dans lequel on vit.
Et alors, pourquoi raconter les histoires en plein air? Pourquoi ne pas les raconter dans des endroits spécifiques qui seraient clos? Pourquoi absolument instaurer ce côté de dehors
Alors, on a des replis en intérieur. J'en profite pour glisser ça. Si jamais il fait mauvais temps, on a évidemment prévu des replis en intérieur. Parfois, quand le lieu intérieur est suffisamment intéressant ou nous appelle fort et invite à la rêverie ou provoque des choses, on va privilégier l'espace intérieur.
Parce qu'il y a quand même un lien au niveau de ça, au niveau de celui qui raconte et le cadre dans lequel il va justement poser son histoire, c'est réfléchi.
Alors on essaie d'y réfléchir, mais j'ajouterais en contradiction à ça qu'il m'est arrivé une fois sur la marche d'être dans un lieu mais idyllique. C'était une petite ville parcourue de canaux, c'était beau, on était tous en train de rêver à ce qu'on allait raconter là, et puis gros orage, et on s'est retrouvés dans la salle des fêtes toute pourrie avec de la moquette murale et des rideaux à fleurs. Et ça a été une de mes plus belles veillées, c'est-à-dire qu'aussi l'accident et le pas prévu amène à... Et c'est ce que j'aime avec le conte, hein, c'est qu'on est tout terrain et on peut moudre tout.
C'est de l'improvisation constante.
C'est de l'improvisation avec un fameux socle. C'est-à-dire qu'on n'improvise pas à partir de n'importe quoi. On connaît notre matière et on sait quand même où on va. Alors pour répondre, parce que je ne me débine pas avec cette question, pourquoi en extérieur ? Il y a quelque chose quand on est en extérieur qui invite l'imprévu. Il y a des bruits, il y a une vibration, il y a quelque chose qui...
L'écoute est favorisée quand même.
Elle est autre. Elle est autre et il y a un abandon à la rêverie qui se fait peut-être plus volontiers.
La marche des compteurs dure du 5 au 10 juillet et le 10 juillet a lieu la grande veillée finale qui se déroule à Poët-Laval. Mais que se passe-t-il ?
Alors la grande veillée finale, c'est la dernière soirée, c'est le moment où le public va pouvoir entendre tous les compteurs de l'édition. Ils sont tous rassemblés dans un même lieu. Cette veillée va se décliner en trois temps. En début de soirée, fin d'après-midi à 17h, on donne rendez-vous aux gens sur le parking de l'aire de pique-nique. Et on va les emmener sur... l'aire de pique-nique haute pour une première racontée à 5-6 conteurs. Puis on va monter dans le vieux village et là on répartit le public dans trois espaces différents et les conteurs vont tourner dans ces espaces, dans des petits lieux du vieux village. Et la troisième partie de soirée, les derniers conteurs vont raconter sur la place des commandeurs. C'est toujours un moment très fort, le moment de la veillée finale, d'abord parce qu'on a... On a des conteurs qu'on traversait, qu'on marchait, qu'on en plein les pattes et plein la tête et plein les mirettes.
Et c'est le bout du tunnel.
C'est un joli bout de tunnel et surtout à se côtoyer tous ces conteurs qui sont tous différents dans le métier, jeunes, vieux, aguerris,
et qui ne se connaissent pas tous
émergents, qui ne se connaissaient pas forcément, sont dans quelque chose de très... ils ont tous... Tout le monde gagne. Tout le monde gagne en détente, en présence. Enfin, c'est souvent une très, très belle soirée. Voilà. Et puis, on retrouve aussi des gens qui nous ont hébergés, qui font la route pour venir retrouver ou découvrir les autres conteurs. Donc, c'est toujours un très, très chouette moment.
C'est ce que j'allais dire, du coup, au niveau du public. Personnes âgées comme les plus petits peuvent venir. Il y a aussi des habitués, des gens qui reviennent peut-être régulièrement.
Il y a des habitués, il y a des gens qui traversent la France pour suivre la marche des compteurs tous les ans, donc il y a des gens qu'on retrouve. Pour les personnes à mobilité réduite, moi j'invite à aller sur le site de la marche des compteurs, je n'ai pas l'adresse en tête mais je vais la trouver, parce que sur le site on indique sur chaque lieu s'il est possible d'y accéder facilement ou s'il vaut mieux éviter si on est à mobilité réduite. Sachant qu'à chaque fois, il y a 4 veillées par soir. Donc,
je l'ai de marquer.
Ouais, je vous donne l'adresse du site, c'est www.lamarchedesconteurs.org. Et là, le site va être remis à jour régulièrement.
Pour
au
mettre
fil
au
de
point,
la marche.
Tous ceux qui seraient intéressés.
Et je voulais ajouter une chose parce qu'elle m'a traversée et qu'elle est importante. Ce ne sont pas des soirées dédiées aux enfants. Ce sont des soirées qui sont ouvertes à tous, mais le conte n'est pas nécessairement une matière qui est destinée aux enfants. Il y a toute une gamme de récits qui sont destinés aux plus jeunes, mais les conteurs qui vont venir sur cette édition ont tous dans leur besace un gros patrimoine de récits à destination des adultes. Moi, il m'est arrivé sur certaines soirées d'avoir prévu un récit et puis de voir arriver une flopée de bambins et de me dire non, ça peut pas tomber dans leurs oreilles, ce que je vais raconter là. Donc, oui, tout le monde peut comprendre, mais chaque conte n'est pas forcément à destination de tout le monde. Voilà.
Et puis, quand même, une petite question, on va dire pas toujours réjouissante. Est-ce que les circonstances actuelles, au niveau de la crise sanitaire, impliquent des restrictions en ce qui concerne l'événement ?
Pour l'instant, au regard de ce qu'on sait, ça va pouvoir se dérouler à peu près normalement. Il y a juste la question du port du masque pour le public, mais dans la mesure où on est en plein air... Je pense, vu les mesures qui viennent d'être annoncées, que ça va pouvoir être relativement souple. Après, par rapport aux personnes qui hébergent, ça, on s'ajuste ensemble sur cette histoire de port de masque. Et nous, on a été évidemment impactés, c'est-à-dire que par rapport au nombre de conteurs qui étaient au départ sélectionnés pour participer à cette aventure, il y en a plusieurs qui ont dû déclarer forfait pour des problèmes de santé ou...
Malheureusement.
Ouais.
Eh bien, merci Virginie. Je vous rappelle donc que cette marche débute le lundi 5 juillet. La première soirée commencera à 20h30 dans les villages de Bouvières, Le Fief, La Paillette-Monjou, Le Poët-Laval et La Touche. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site www.lamarchedesconteurs avec un s.org. Pour ma part, j'attends avec impatience ces veillées nocturnes remplies d'histoires. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir.
Radio-la.media.